Chapitre 12. À la permanence. 10 minutes après, le fiacre s'arrêtait à l'adresse indiquée, c'est-à-dire à l'une des portes de cet horrible amas de constructions vermoulues qui renfermait alors les innombrables services de la préfecture de police. Pico sauta à terre le premier. William Doe l'imita pour aider la jeune femme à descendre. L'infortuné ne semblait pas avoir conscience de ses actes. Le bureau de la permanence se trouvait à cette époque au rez-de-chaussée, à gauche de ce grand escalier de bois aux marches raides et humides qui conduisait au premier étage et à cette longue galerie vitrée qu'il fallait suivre, à droite et à gauche, pour se lancer dans cet inextricable dédale d'escaliers, de portes, de passages, de couloirs menant aux divers bureaux de l'administration. Les égarés du 18 mars ont brûlé ces bâtiments honteux pour Paris et qui menaçaient ruine. Ils avaient au moins des raisons toutes particulières pour agir ainsi. C'est le seul crime intelligent qu'ils ont commis. « Oh, vous pouvez m'accompagner si cela vous intéresse !» dit ironiquement Pico à William Doe en lui désignant la porte du bureau où il avait affaire. Et, prenant le bras de Mademoiselle Rumigny, qui obéissait automatiquement, il s'avança en homme qui connaissait la maison. L'Américain le suivit. Ils pénétrèrent d'abord dans un vestibule sordide et traversèrent une petite pièce dans laquelle 2 ou 3 gardiens de la paix dormaient auprès d'un grand poêle de faïence. Ils entrèrent ensuite dans une salle assez grande qu'une barrière de bois à hauteur d'appui et polie par le frottement divisait en 2 parties. D'un côté, 4 pupitres placés dos à dos sur 2 larges tables et des rayons chargés de registres. De l'autre, des bancs le long de la muraille et une cheminée à la prussienne où fumait un feu de houille. 2 lampes répandaient plus de mauvaise odeur que de clarté dans ce lieu lugubre. Ce n'était pas encore la prison, mais c'en était bien l'antichambre. C'était la permanence, bureau qu'on nomme ainsi parce que nuit et jour, on y trouve un greffier et son secrétaire. Les auxiliaires de la justice ne doivent pas chômer plus que ne le fait le crime. Des arrestations pouvant avoir lieu à toute heure, il faut qu'à toute heure, la prison puisse s'ouvrir. Or, c'est par la permanence que passent tous ceux que le dépôt doit recevoir et garder jusqu'à ce que la préfecture de police ou le parquet ait statué sur leur sort. Tout naturellement, il y a pour ce service 2 greffiers et 2 secrétaires qui se relèvent de 24 heures en 24 heures. Au bruit des pas des arrivants, l'employé de veille qui sommeillait accoudé sur un des pupitres leva la tête et tendit machinalement la main. Cole lui tendit, déplié, le mandat d'arrêt dont M. Mélin lui avait confié l'exécution peu d'instants après l'avoir reçu lui-même de M. de Fourmel. « Votre nom ?» demanda sèchement le greffier à la jeune femme, tout en parcourant d'un œil à demi fermé le mandat. Mademoiselle Rumigny ne répondit pas. Appuyée contre la balustrade qui séparait les 2 parties de la pièce, car sans ce soutien, elle n'aurait pu se tenir debout, et son enfant pressé contre son sein, la malheureuse regardait sans voir, entendait sans comprendre. Si son corps était revenu à la vie, son esprit restait engourdi. « Voyons, c'est à vous que je parle !» répéta l'employé. « Votre nom !»« Vous n'entendez donc pas ?» lui dit à son tour Pico, en la secouant par le bras. « On vous demande comment vous vous appelez !»«
Quoi ? Que me voulez-vous ? »
murmura Marguerite.
« Laissez-moi !»
Elle avait fait un pas en arrière, comme pour s'enfuir, mais l'agent de la sûreté lui avait barré le passage.
« Ah ça ! C'est donc une folle que vous m'amenez là !» fit le bureaucrate en haussant les épaules. « Il fallait le dire !»
Sans s'occuper davantage de la jeune femme, il s'était mis à remplir les blancs d'un imprimé qu'il avait devant lui. Muet et immobile, William ne perdait pas un des détails de cette scène navrante. « Accompagnez l'agent à la prisonnière au dépôt !» commanda le greffier à l'un des gardes quand il eut fini d'écrire. Et il tendit à Pico un ordre ainsi conçu. Préfecture de police, police municipale. Bureau, permanence. Motif, mandat d'arrêt de Monsieur le juge d'instruction de Fourmel. Monsieur le directeur du dépôt recevra la nommée Marguerite Rumigny, avec un enfant, âgé de... né à... département de... et l'y gardera jusqu'il en soit autrement ordonné. Paris, le 5 avril 1800... Pour l'inspecteur principal, Romain. Ledit Romain avait dû laisser en blanc plusieurs lignes, puisque Mademoiselle Rumigny n'avait pas répondu à ses questions. Mais comme il pensait avoir affaire à une folle, cela l'inquiétait peu. « Allons, venez, » dit le policier à sa prisonnière. « Il faudrait au moins lui enlever son enfant, » observa le greffier, mu par un sentiment d'humanité. Cette menace parut rappeler subitement Marguerite à elle-même.
« Mon enfant » s'écria-t-elle. « M'enlever mon enfant ! Qu'allez-vous donc faire de moi ?»
Et enveloppant la petite créature dans son châle, comme si elle eût voulu la dérober à tous les regards, elle la serrait contre sa poitrine. Fort embarrassée, surtout à cause de la présence de l'Américain, Pico commençait à regretter de n'avoir pas remis au lendemain l'exécution de sa pénible mission. Cependant, il fallait en finir. « Non, dit-il à la jeune femme, on ne vous enlèvera pas votre enfant, seulement il faut obéir. » Il avait pris Mademoiselle Rumigny par un bras et l'entraînait doucement vers la porte du bureau. L'infortunée se laissait conduire. La promesse qu'on venait de lui faire la rendait indifférente à l'égard de tout autre malheur. William Doe s'était approché d'elle, et au moment où il la soutenait pour l'aider à descendre les trois marches de la permanence, il lui murmura rapidement à l'oreille.
« Courage, madame, moi je ne vous abandonnerai pas. »
Marguerite reconnut la voix de son sauveur et lui répondit. « Vous voyez bien qu'il valait mieux me laisser mourir. » « Joli défenseur qu'elle aurait là, » pensa l'agent de la sûreté qui avait tout entendu. « Il ne se doute guère qu'au premier instant, il sera lui-même à l'ombre. » Il guidait sa prisonnière à travers les étroits couloirs qu'ils étaient obligés de traverser pour gagner la prison. Les planchers étaient humides et rugueux, les escaliers raides et glissants, semés de mille obstacles. Mademoiselle Rumigny trébuchait à chaque pas. Sans l'aide de ceux qui la soutenaient le long de ces lugubres passages, à peine éclairés par quelques fanaux accrochés çà et là aux murailles, elle serait tombée 20 fois. Ils arrivèrent enfin à l'entrée du dépôt. Seulement alors, à la vue de cette porte sombre, bardée de fer, Marguerite parut comprendre où on la conduisait. Au bruit lugubre que fit en retombant le marteau que Pico avait soulevé pour annoncer son arrivée, elle leva les yeux, tressaillit, se mit à trembler. Et quand, après le grincement des verrous et de la serrure, elle aperçut le gardien et, derrière lui, le gouffre béant, elle jeta un cri d'horreur.
« Courage !» le répéta William Doe en la quittant, car il comprenait qu'on ne le laisserait pas aller plus loin.
Le municipal, qui avait accompagné l'agent de la sûreté, remplaça l'Américain auprès de Marguerite, prêt à défaillir, et la lourde porte du dépôt se referma en sonnant comme un glas funèbre sur la fille de la victime de la rue Marlot.
« Voilà une femme perdue si je ne m'en mêle, » se dit l'étranger en reprenant la route qu'il venait de parcourir.
Le mandat est signé Monsieur de Fourmel. C'est un homme sérieux. Il faut qu'il ait découvert des preuves bien accablantes de sa complicité. Ce serait étrange si moi, William Doe, je prouvais son innocence, quand ce ne serait que pour me venger de Maître Pico. »
Ces réflexions l'ayant conduit jusque sur le quai de la conciergerie, notre mystérieux personnage tourna à droite pour prendre à pied le chemin de l'hôtel du Dauphin. Tout à coup, il sentit dans sa poche un objet dont la forme ne lui rappelait au toucher rien qui lui appartint. Il l'en tira et reconnut le médaillon de Marguerite qu'il avait oublié. L'ayant ouvert, il s'approcha d'un bec de gaz afin d'examiner ce que contenait le bijou. C'était le portrait d'un homme d'une 30aine d'années et remarquablement beau. « L'amant, sans doute, » pensa William Doe. « L'assassin, » croit M. de Fourmel. « Peut-être tout simplement l'infidèle. Nous verrons bien. » Et il continua sa route.